Alors, bonjour à tous. On va beaucoup parler de la puissance de Jésus aujourd'hui, entre autres. J'aimerais juste vous dire qu'elle est là. Nous en avons une preuve manifeste, JB et Malaika peuvent le confirmer. Pour mettre le bimère, eh bien, la clé USB ne voulait pas fonctionner. Alors, on la glisse une fois à gauche, une fois à droite, re à gauche, re à droite, devant, derrière. Et à un moment donné, j'étais tellement fâchée que j'ai dit « Jésus ». Il fonctionne. Donc, on commence bien. Voilà. J'aimerais aussi vous dire que j'apprécie vraiment d'avoir toujours un focus sur un thème ou un autre parce que ça me permet de tellement approfondir la parole que je trouve ça absolument génial. On ne part pas dans tous les sens, on va profondément dans la parole et c'est chaque fois pour moi une grande joie. Alors ce matin, on va avec joie ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, et j'espère qu'aujourd'hui nous allons recevoir de belles paroles d'encouragement, de fortification, de consolation de la part de Dieu. Notre focus est donc l'évangile de Marc. L'évangéliste Marc a voulu montrer dans son évangile Jésus le serviteur, au travers de sa puissance et au travers de sa souffrance. J'ai une très longue section qui m'a été dévolue. Et je ne pouvais pas tout prendre parce qu'on y serait pour toute la matinée et même un début de l'après-midi. Donc j'ai un petit peu raccourci. Comme c'est tellement riche. Bon, aujourd'hui, je veux me focaliser sur la puissance de Jésus. Et je veux vraiment que vous compreniez qu'au travers de cette puissance, on a l'espoir, on a la foi, on a la force, on a l'encouragement, on a tellement de choses. Mais c'est à nous de l'apprendre. Une petite introduction. Marc était donc le secrétaire de l'apôtre Pierre. Et il a rédigé son évangile à Rome alors que l'Église y était très persécutée. Pierre, dans les dernières années de sa vie, avait très à cœur d'encourager et de consoler les chrétiens face à ces persécutions. Ces persécutions étaient terribles. Et elles étaient surtout dues à l'empereur Néron, qui a fait croire que les chrétiens étaient coupables de l'incendie qui a, pour une bonne part, ravagé Rome. En fait, Néron envisageait un projet très ambitieux qui lui permettait d'aller de l'avant dans un projet d'urbanisation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'on n'est pas bien loin de nos jours où on spolie des gens, où on éloigne des gens pour créer des projets parfois pharaoniques et pas toujours très utiles. Mais ces persécutions étaient vraiment terribles. Je n'ai pris qu'un exemple parce qu'il m'a profondément touchée. On enduisait de résine les chrétiens et on les faisait brûler en tant que flambeaux pendant la nuit. Ça m'a vraiment touchée. Alors ces communautés chrétiennes, elles avaient un immense besoin de se recentrer sur l'essentiel. Et Marc a voulu les recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. Elles avaient besoin de consolation, besoin de réconfort, besoin de pouvoir s'appuyer sur les promesses de la parole, besoin de croire en la puissance de Jésus, de s'envelopper de l'amour de Jésus pour chacun et de rêver à un avenir glorieux. Depuis le début de l'évangile de Marc, Jésus insiste sur cet avenir et il dit « Le royaume de Dieu s'est approché de nous ». Un royaume où il y a justement cet espoir, cette guérison, ces délivrances, cette espérance dans un monde meilleur. Au travers de paraboles, de récits de miracles, de délivrances et de guérisons, l'évangile de Marc montre aux chrétiens persécutés de l'époque la puissance de Jésus, l'amour de Jésus, la confiance que nous pouvons mettre en Jésus. Et de même aujourd'hui, cette parole, même si on n'est pas persécuté de la même manière, peut nous apporter la même consolation, la même espérance. Et les miracles décrits, entre autres par Marc, sont les signes du royaume à venir de Dieu qui s'ouvre au monde entier. Seulement ces manifestations des signes du royaume entraînent une opposition de la part du diable. Ce serait trop facile, autrement, on est bien d'accord. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Donc, Jésus plus fort que la nature et les démons, la guérison d'une femme impure et la résurrection d'une fillette, et ma conclusion qui sera le rejet de Jésus et la mission des apôtres. Voilà un peu mon plan. On commence avec Marc 4, versets 35 à 41. Je vous la raconte, la Bible, je ne vous la lis pas aujourd'hui. Au bord du lac de Tibériade, ou mer de Galilée, Jésus a passé la journée entière à enseigner une foule au travers de plusieurs paraboles qu'on a déjà entendues les deux dimanches précédents. Et le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Le lac de Tibériade ou mer de Galilée est similaire à notre lac Léman. Est-ce que vous le saviez ? Il est similaire dans sa grandeur, il est similaire par le fait qu'il y a des montagnes ou des collines autour, et il est similaire par le fait qu'il est tout aussi dangereux que le lac de Tibériade. Il y a des remous, il y a des courants contraires dessous, et parfois les pêcheurs n'ont pas le droit de sortir. Et il y a une quantité de cadavres de bateaux au fond du lac. Donc on peut déjà illustrer en regardant le lac Léman, le lac de Tibériade. Et aujourd'hui, nous sommes face à une méga tempête. Alors, je ne sais pas, nous, on l'a vécu avec nos enfants. On est allé au musée maritime de La Rochelle. Et là-bas, il y avait un corridor qui nous faisait aller dans une tempête toujours plus forte. Ils parlent de nœuds, hein, le nœud 1, le nœud 2, le nœud 3. Eh bien, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus parler, vous pouvez à peine respirer, vous avez vos cheveux qui vont dans tous les sens et vous devez vous accrocher au bord pour pouvoir continuer à avancer et arriver au bout du corridor. Et c'est vraiment impressionnant, entre le bruit, vraiment, ça vaut la peine d'être vécu. D'ailleurs, votre pasteur, il a dit en sortant de là, « Qu'est-ce que j'aimerais avoir ce bruitage pour parler une fois de la tempête ?» Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, mais... Sachez, ce n'est pas rien. Et la parole nous dit même que le bateau se remplissait d'eau. Alors on peut imaginer les disciples en train d'écoper parce que l'eau arrive, l'eau arrive. Et puis qu'est-ce qui se passe à part ça ? Jésus dort tranquillement. Nous avons des pêcheurs aguerris complètement effrayés. Et à côté, on a Jésus, on l'entreaperçoit un petit peu, l'image n'est pas très très bonne, mais j'ai eu la peine à trouver une belle image. Il est allongé et il dort. Ça doit être rageant quand même. Hein? Alors les disciples hurlent, crient, parce qu'il fallait aller au-dessus du bruit de la tempête, et ils disent, mais Jésus, t'as pas vu ce qui se passe? Tu vois pas qu'on va mourir? Au bout d'un moment, Jésus se réveille quand même, il se lève, et il dit, tais-toi. C'est tout ce qu'il dit. Et voilà que l'eau, elle est toute calme. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien. La tempête s'est arrêtée. Mais Jésus se tourne vers les disciples et leur pose une question, que je vous pose aussi. N'avez-vous pas de foi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire aujourd'hui? Déjà, il y a une réponse à une question que je me suis souvent posée. Comment est-ce que Jésus peut dormir aussi paisiblement alors que tous les éléments naturels se déchaînent autour de lui? Jésus sait qui est son Père. Jésus sait que son Père veille. Donc Jésus n'a pas peur. Son papa est là. C'est une leçon pour nous. Quand tout se déchaîne, quand tout va mal. Et nous l'avons vécu, personnellement, dans la famille. Notre fille avait environ 9 ans, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une infection des os, plein d'autres problèmes, et surtout, les médecins pensaient qu'elle avait un cancer de la colonne vertébrale. Nous avons donc vécu la tempête, et pas n'importe laquelle. Eh bien, vous pouvez demander à votre pasteur, toutes les nuits étaient paisibles. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que pendant cette période. Dieu savait que j'avais besoin de la force le lendemain pour m'occuper de 3 autres enfants, d'aller travailler, de ci, de ça. Toutes mes nuits étaient paisibles. Alors, je peux comprendre Jésus qui dort paisiblement en pleine tempête. Et si nous nous appuyons sur Dieu, si nous nous mettons dans les bras de notre papa, nous pouvons affronter des tempêtes dans la paix. Nous voyons aussi la puissance de Jésus. Jésus sait parfaitement pourquoi il désire passer de l'autre, sur l'autre rive. Il sait parfaitement contre quels éléments il va se battre. Parce que cette tempête n'était pas naturelle, elle était spirituelle. Et ça illustre toutes les épreuves que nous pouvons aussi traverser, de toutes les difficultés que nous pouvons aussi surmonter. Alors, rappelons-nous, notre papa, il sait parfaitement ce par quoi on doit passer. Et il faut vraiment qu'on aille foi en Jésus et lui confier nos souffrances, lui confier nos problèmes, lui confier nos défis, lui confier nos tempêtes et le laisser gérer avec foi. Et il ne faut pas être surpris si tout se déchaîne dans notre vie, parce qu'on a justement un ennemi. Alors il faut regarder à Christ, se reposer sur notre Papa céleste, et nous verrons la puissance de Dieu s'accomplir. Notre fille n'avait pas de cancer. Elle avait en fait, elle est née avec un handicap qui est rarissime et qu'elle gère maintenant. J'aimerais vous dire, ce combat a duré 5 années. 5 années de combat. Mais certains d'entre vous ont vu et entendu, le 15 septembre dernier, notre fille ici. Eh bien, ces 5 années de combat valaient la peine, non? Quand on voit ce qu'elle est devenue. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi les forces se déchaînaient contre nous. J'ai connu d'ailleurs d'autres combats avec notre fils Luc, que vous venez de voir. Et lui, j'ai eu un combat qui a duré 1 heure. J'en ai eu d'autres, mais 1 heure où, j'ose le dire, j'étais devant Satan. Dans la salle de bain, c'est mon lieu de prédilection. Et je lui ai dit, tu ne peux pas me l'arracher parce que j'ai reçu ça comme promesse, parce que Dieu m'a dit ça, parce que. Je ne vous mens pas, et Luc est témoin. Il s'est relevé directement après. Alors j'aimerais vraiment vous engager à vous appuyer sur les promesses que vous recevez, à vous appuyer sur ce que Dieu nous promet, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Maintenant, j'aimerais vous dire que Jésus, je vous confirme que Jésus savait parfaitement pourquoi il devait traverser sur l'autre rive, et nous allons le voir. La première des choses, c'est que sur certaines versions, on voit qu'il dort sur un coussin. Et certains commentateurs parlent d'un ballot de vêtements. Il en avait besoin de l'autre côté. Il en avait besoin. Jésus emmène les disciples dans un pays qui n'est pas juif. Alors, première question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi est-ce que Jésus part à l'étranger? Enfin, il a déjà suffisamment de choses à faire chez lui. Quelle est cette idée? Mais parce que nous sommes appelés, comme il est dit en Matthieu 28, 19, de faire... Exactement. Voilà pourquoi. Jésus veut montrer que la croissance de son royaume est pour le monde entier. À peine arrivé sur l'autre rive, un homme rempli d'une légion de démons lui saute dessus, enfin c'est ma manière de dire les choses, et un dialogue s'installe. Dialogue et combat spirituel qui aboutiront à une libération pleine et entière de cet homme qui était totalement prisonnier de forces démoniaques. Ici, Jésus nous montre sa puissance sur les forces démoniaques. Il nous montre aussi son œuvre rédemptrice. Mais la foule de témoins, elle, est très fâchée de voir son gain qui part au travers des ports, qui tombe de la falaise dans l'eau. Elle ne pense qu'à son confort, qu'à ses biens, qu'à son argent. Et je pense que notre monde actuel n'est pas bien loin de cette foule, il n'est pas bien différent. C'est tellement plus confortable de penser à l'argent, à la voiture, à la maison, à tous ces biens-là plutôt que de venir le dimanche matin à l'église. Heureusement, d'un autre côté, on a un homme qui va être totalement délivré, totalement remis dans son bon sens, dit la parole. Et lui qui était nu est maintenant vêtu avec le coussin sur lequel Jésus dormait. Sur l'envoi de Jésus, parce qu'il voulait rester avec Jésus, et Jésus lui dit « Non, non, va dans ta famille annoncer tout ce que tu viens de vivre. » Donc sur l'envoi de Jésus, ce ancien démoniaque va devenir un témoin convaincu et convaincant dans une région. Satan pensait avoir détruit une graine, mais comme nous l'avons entendu dimanche passé, une seule graine tombée dans de la bonne terre peut porter beaucoup de fruits. L'ancien démoniaque, qui part donc sur les instructions de Jésus, va porter du fruit non seulement dans sa famille et dans les alentours, mais dans toute la Décapole, c'est-à-dire une région aussi vaste que la Judée, la Galilée et la Pérée réunies, une région plus grande que l'ensemble des territoires juifs de l'époque. Un homme, une délivrance, une graine. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant, non? Le royaume de Dieu continue de croître. Et Jésus nous appelle à cette même œuvre, délivrer, guérir, évangéliser. Est-ce qu'on en est conscient? Je continue avec la résurrection d'une fillette. Après que le démoniaque soit délivré, Jésus et ses disciples repartent de l'autre côté du lac. Là, une grande foule l'attend. Et c'est alors qu'un chef de la synagogue, Jaïrus, se jette à ses pieds et le supplie de venir voir sa fille de 12 ans, qui est sur le point de mourir. Jaïrus n'est pas n'importe qui, et Marc insiste sur l'importance de cet homme. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous avons un chef de synagogue, et sa manière d'agir est identique à celle du démoniaque. Il court vers Jésus, il se met à genoux, et il l'implore instamment. C'est les mêmes mots, c'est les mêmes gestes. C'est super étonnant parce que c'est la même chose entre un démoniaque païen et un chef de synagogue. Et moi, ça m'a interpellée. Mais il y a autre chose qui m'a interpellée. C'est que Jésus a envoyé le démoniaque proclamer. Et si vous lisez attentivement, et je vous engage à lire attentivement ces passages, Jésus dit à Jaïrus, tais-toi. Pourquoi est-ce qu'il doit se taire? Ça doit être génial quand même. Jésus vient de ressusciter sa fille. Moi, je le proclamerais partout, et même dans les journaux. Ben non. Il y a deux choses. D'abord, Jésus montre qu'il est un serviteur. Il a écouté ce chef, il a écouté sa souffrance, et il est parti ressusciter sa fille. Mais il y a une autre chose. Si l'ex-démoniaque avait la mission d'annoncer l'évangile, Jaïrus avait une autre mission. Et ça, on le lit quand on lit l'histoire des pères de la première église, l'église primitive. Jaïrus savait ce que c'était que la résurrection, puisqu'il l'a vécu avec sa fille. Et donc, il va être un témoin extrêmement puissant dans l'église primitive de la résurrection de Jésus. Et il va pouvoir proclamer et faire ce travail totalement différent de celui du démoniaque, mais tout autant porteur de graines. On n'a pas tous les mêmes rôles à jouer. Et là, on le voit bien. Et moi, maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Parce que là, on parle de résurrection. Il y a la résurrection physique. Mais qu'en est-il de votre résurrection spirituelle? Je vous pose cette question parce que moi, lorsque j'ai rencontré Jésus, il y a de nombreuses années en arrière, je suis ressuscitée. Et j'ose le dire. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que j'étais alors. Je suis entrée dans l'église, je me suis assise sur une chaise, en larmes, je ne pleurais jamais, et j'ai dit « me voilà à la maison ». Ça a été ma résurrection. Et j'ai à cœur que vous puissiez, pour ceux qui ne sont pas encore ressuscités spirituellement, que vous puissiez vivre cette résurrection. Il y a tout qui change, absolument tout. Et Jésus a cette puissance de résurrection et auprès de chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour une personne seulement. Nous sommes tous appelés à ressusciter en Christ. D'abord spirituellement, déjà ici, et ensuite lorsque nous serons auprès de lui. Je pars un peu plus loin. Alors qu'il est compressé par la foule et qu'il se dirige vers la maison de Jaïrus, il se passe un autre miracle. C'est une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 longues années. Je vous rends attentif que la petite fille avait 12 ans et que cette femme souffrait depuis 12 ans. Elle fend la foule parce qu'elle se dit « J'ai déjà vu tous les médecins, j'ai dilapidé toute ma fortune, il n'y a jamais rien qui m'a guéri, mais si je touche sa robe, là je serai guérie. » C'est une question de foi. Cette femme, elle n'a plus rien à perdre. Plus elle a tellement vécu le rejet de son entourage. Est-ce que vous savez ce que c'est que le rejet d'avoir une perte de sang en Israël? Moi, j'ai vu un témoignage à la télévision. C'était des femmes qui venaient d'accoucher. Alors évidemment, vous savez qu'on a des pertes de sang quand on vient d'accoucher. Tous les accouchements ne sont pas faciles où on fait tchoum tchoum et puis pouf, le bébé est là, tout va bien. Non. Il y a des femmes qui vivent de grandes blessures, qui ont des graves déchirures et qui ont longtemps, longtemps des pertes de sang. Et ces femmes témoignaient, donc c'est aujourd'hui dont je vous parle, que leur plus grande souffrance, c'était qu'elles ne pouvaient pas aller dans les bras de leur mari parce qu'elles étaient impures. Vous vous rendez compte? Ça fait tellement du bien quand on est en souffrance de pouvoir se mettre dans les bras de quelqu'un, de faire un grand hug, de pouvoir se sentir quelqu'un. Et quand on n'est pas touché, pas approché, rejeté, c'est un rejet terrible. Et cette femme en était là. Et donc elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait qu'une chose, sa foi. Et donc, dès qu'elle touche la robe, elle est guérie. Seulement, elle a touché quoi? La puissance de Jésus. Et Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Qu'est-ce que c'est? Et il force cette femme à témoigner devant tout le monde. Et elle a osé le faire. Et elle, qui ne pouvait pas donner la vie, peut envisager de donner la vie. Vous rendez compte? C'est extraordinaire. Nous sommes toujours face à cette toute-puissance, face à cette consolation, face à cette résurrection de Jésus. Et je vous pose la question, est-ce que vous seriez capable de vous jeter aux pieds de Jésus pour crier votre désespoir, votre souffrance? J'en arrive à la conclusion. Jésus retourne chez les siens. Il retourne dans sa patrie, là où il a grandi. Et nous voyons deux groupes se former. Le premier, sa famille, ceux qui l'ont connu. Le deuxième, les disciples qui partent en mission. Sa famille et ses anciens voisins et amis le rejettent. Ils ne peuvent pas croire que l'enfant, puis l'adolescent et enfin l'adulte qu'ils ont connu puisse être le Messie. Ils sont totalement incrédules. Et c'est un rejet terrible, car ceux qui rejettent Jésus ne sont pas des étrangers pour lui, mais ce sont des proches que lui a connus aussi. Résultat, aucune guérison, aucune délivrance à cause du manque de foi. Et ça doit être une leçon pour nous. Nous voulons être guéris, nous voulons ressusciter, nous voulons que nos tempêtes s'apaisent. Nous avons un acte de foi personnel à vivre et à faire. En parallèle, c'est assez rigolo, mais c'est vraiment en parallèle, nous avons les disciples qui partent deux à deux et qui prêchent l'évangile, chassent des démons, délivrent des malades. C'est vraiment le contraire, quoi, complètement. Et si je reviens au message qu'on a entendu la semaine dernière, je dirais que les graines qui sont tombées sur un terrain infertile, c'est les graines qui sont tombées sur le village natal. Et les graines qui sont tombées sur un terrain fertile, c'était les graines qui sont tombées dans le cœur des disciples. Alors, je vous pose la question. En ayant entendu ce que la puissance de Jésus peut faire, quel est votre terrain? Question qui a déjà été posée dimanche passé par notre pasteur Thierry. Et est-ce que vous auriez assez de foi après pour devenir témoin de Christ? Est-ce que vous auriez assez de foi pour demander à Jésus qu'il vous délivre de toutes les tempêtes éventuelles que vous auriez dans votre cœur? Est-ce que vous pensez que Jésus peut vous guérir et vous rétablir? Est-ce que vous pensez que vous êtes ou vous pouvez ressusciter en Christ? Alors, je vais faire deux temps. Je ne suis pas habituée à ce genre d'exercice. Je vais d'abord prier pour que chaque personne qui est en train de vivre une grande tempête spirituelle se repose en Christ. Et je vais, moi, proclamer avec ma foi, j'espère qu'elle sera très grande, que les tempêtes sont terminées et en voie de guérison. Et je dis comme Jésus, taisez-vous. Amen. Alors, mon deuxième plan, c'est que nous ne sommes pas tous enchaînés par une légion de démons. Mais nous avons tous des liens. Ça peut être des liens de mauvais esprit, ça peut être des addictions, ça peut être d'autres dieux comme l'amour ou l'argent ou que sais-je. Mais nous sommes liés. Et j'aimerais que vous puissiez être délivrés comme le démoniaque, comme la femme impure, ressuscité comme la fille de Jaïrus. Alors pour ça, je vous demande simplement de vous lever, pas de vous avancer, mais de vous lever. De vous lever et de vivre quelque chose de personnel, d'intime, rien qu'entre vous et Jésus. Et je vous demande de prendre comme la femme impure, avec force, la puissance qui se trouve en Jésus et qu'il est prêt à vous donner. Vous vous levez simplement, vous n'avez qu'à vivre quelque chose de fort avec Jésus. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Parce que Jésus est là. Et parce que Jésus s'attend, il tend ses bras vers vous et il dit « Je veux vous voir dans le royaume. Je veux que vous touchiez ce royaume. Je désire que vous veniez passer l'éternité avec moi. Je désire que vous soyez libres. Je désire que vous soyez libérés de vos tempêtes, libérés de toutes vos addictions, libérés de tout ce qui vous fait du mal et qui vous empêche de venir vers moi. » Je proclame que toutes nos tempêtes sont éliminées par Jésus qui est venu, qui est allé auprès de son Père pour lui demander que nos tempêtes soient apaisées, pour nous montrer le chemin pour vers le royaume, et c'est par la foi que je le proclame. Amen.